Passer ensemble
l'interview.
Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre sur Patients Ensemble. Céline et Valérie avec vous pour ce matin soleil. C'est l'heure de la première interview et nous recevons comme invité le professeur Arnaud Méjean. Alors il est chef de service en urologie et chirurgie rénale à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, ex-zone rouge, aujourd'hui orange hein, depuis la nouvelle appellation. Professeur Méjean, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation malgré, j'imagine, votre surcharge de travail. Soyez le bienvenu.
Merci, bonjour.
Alors, professeur, j'aimerais que l'on parle tout d'abord de la situation sanitaire actuelle en région parisienne. Vous m'arrêtez si je me trompe, on a l'impression à entendre les médias que le virus est mort, qu'il ne résisterait pas à la chaleur et que déconfinement égale fin de l'épidémie. En somme, quelle est la réalité du terrain en région parisienne ?
La réalité, elle est un petit peu plus contrastée parce qu'on a encore des patients en réanimation. La particularité de ce virus et de la maladie, c'est que les délais de réanimation étaient très longs chez ces patients. Ça veut dire qu'on a des patients qui sont rentrés il y a 15 jours, 3 semaines, 1 mois en réanimation, qui pour une grande partie d'entre eux en sont sortis, mais qui pour certains d'entre eux sont encore en réanimation. Et on sait très bien qu'après la réanimation, les patients ne sortent pas tout de suite. Il leur faut d'abord, on va dire, une zone de transition dans des structures de soins avant de sortir à domicile ou avant de sortir en centre de rééducation parce qu'évidemment ce sont des patients de réanimation qui ont contracté non seulement la maladie mais qui en réanimation sont soumis à des pressions et à des stress extrêmement forts. Donc on sort pas de réanimation comme ça directement à l'extérieur. Donc c'est vrai que tous les chiffres montrent une diminution du nombre d'admissions, une diminution du nombre de patients vus aux urgences, une diminution du nombre de patients vus en réanimation, une baisse très significative, hein, c'est tout à fait clair. Mais l'épidémie n'est pas encore définitivement passée et nous avons encore des patients hospitalisés en secteur Covid, atteint de la maladie.
Professeur, je vois beaucoup de personnes dans la rue, notamment des jeunes et des personnes âgées, qui portent le masque sur la bouche, mais pas sur le nez. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que porter un masque ainsi ne protège pas et rappeler comment se porte un masque et surtout, quel est son intérêt réel contre un virus ?
La diffusion de cette maladie virale se fait quasiment exclusivement, pas tout à fait, mais quasiment exclusivement par ce qu'on appelle les voies aéropharyngées, c'est-à-dire le nez, la bouche, l'expulsion par des gouttelettes. Donc à chaque fois que l'on parle, à chaque fois que l'on tousse, à chaque fois que l'on respire et que l'on expire, à chaque fois qu'il y a, même si on ne le voit pas, mais il y a en permanence, dès qu'on parle, des gouttelettes qui sont très très fines, qui s'expulsent de notre bouche, eh bien on peut diffuser la maladie virale. Le masque est donc bien là pour éviter d'expulser ces particules à l'extérieur et doit donc se porter de façon optimale en couvrant le nez et en descendant jusqu'au menton. C'est la raison pour laquelle il y a une sorte d'élasticité du masque. Quand on achète le masque, il a une distance, mais en fait on voit très bien que quand on écarte le haut et le bas, il augmente de volume. Et c'est exactement fait pour ça. Donc on doit bien le placer sur la partie, le tiers supérieur du nez, le descendre bien en dessous du menton et bien l'appliquer sur les oreilles. À chaque fois que l'on touche le masque, on risque de s'infecter les mains. Et puis quand on descend le masque sous le nez ou quand on descend le masque sous le menton, il n'a strictement plus aucune utilité. Donc si on porte le masque, il faut bien le porter, sinon ça ne sert à rien. Donc ça, je crois que cette question que vous posez est très importante. Elle doit bien être comprise de tous vos auditeurs. Il faut que le masque soit efficace et pour être efficace, il faut qu'il soit mis sur la totalité du nez et de la bouche pour éviter la diffusion du virus. J'ajoute qu'effectivement, comme je l'ai déjà dit, dès lors que vous touchez le masque, vous risquez de contaminer vos doigts par les propulsions qui justement se sont stockées sur le masque et donc votre main devient elle-même contaminatrice. Donc il faut bien avoir conscience que le port du masque n'est pas la seule chose, mais qu'il faut toujours avoir sur soi également une petite solution hydroalcoolique, ou alors se laver les mains, mais qu'à chaque fois qu'on touche le masque, on doit le remettre en place et on doit immédiatement avoir comme une sorte de réflexe la possibilité de mettre de prendre la solution hydroalcoolique pour se laver les mains ou alors de se laver les mains sous le jet d'eau. C'est très important de respecter ça. C'est par ce respect de ces règles qu'on va essayer de limiter la diffusion de la maladie.
Professeur, idéalement, il faudrait changer de masque tous les combien ? Parce que moi, j'ai un masque que j'ai gardé depuis le début. Bon, je fais bien attention de couvrir effectivement mon nez, ma bouche. Hein. Je fais très attention, j'ai du gel, j'ai tout ce qu'il faut. Mais pour très bien faire, il faudrait faire quoi ? Changer deux fois par jour, trois fois par jour de masque ?
En fait, vous avez trois types de masques. Vous avez les masques qui sont des masques chirurgicaux, soit en tissu, soit en textile, et qui sont des masques homologués, c'est-à-dire qu'ils ont été faits selon des normes, qu'on appelle les normes AFNOR, et qui respectent un certain nombre de critères. Ces masques-là, on considère qu'au-delà de 4 heures, il faut en changer. C'est-à-dire que si le masque est jetable, il faut le jeter et en prendre un nouveau. Si le masque est lavable, et le nombre de lavages est indiqué sur la notice, il faut le laver et en prendre un deuxième, pour se couvrir le temps de l'exposition. Et puis vous avez un troisième type de masque, qui sont des masques, on va dire, de fortune, des masques faits par les uns, par les autres, des masques qu'on peut acheter sur Internet, ou qu'on peut acheter dans différentes choses, ou qu'on peut faire soi-même. Ce sont des masques qui, par définition, n'ont aucune caractéristique et aucun critère de vérification. Donc ils peuvent être jolis, ils peuvent être utiles, ils peuvent être bien, et quand on n'a rien, ils sont utiles. Mais moi, j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, où enfin on a des masques disponibles avec des normes AFNOR, il vaut mieux s'équiper de ces masques-là, soit sur Internet, soit dans des magasins, pour justement respecter les critères qui permettent de s'assurer que les masques sont utiles, sont efficaces, et par ailleurs, que ce sont des masques sous lesquels on peut quand même respirer. Parce que le principal défaut de ces masques, c'est qu'au bout d'un moment, et les patients le disent, ils se sentent étouffés. Donc nous, évidemment, chirurgiens, on est habitués parce qu'on les porte tout le temps, mais la population se sent étouffée. Ils se sont étouffés pour une certaine part parce que ces masques ne sont pas faits pour respirer. Ils sont faits avec des tissus qui ne sont pas adaptés. Donc je pense qu'il faut bien respecter ça. Et je pense qu'aujourd'hui, où on dispose d'un nombre de masques suffisant, je pense qu'il vaut mieux prendre des masques avec ces normes AFNOR.
Professeur, est-ce que la visière est plus efficace ? On parlait d'avoir des soucis pour respirer. Est-ce que la visière est plus efficace que le masque ?
Ben la visière, en fait, si vous voulez, elle est efficace, là encore, si les projections de particules ne s'expulsent pas en dehors de la visière. Donc là encore, il faut bien la porter pour couvrir tout le visage et pour faire en sorte que lorsque l'on parle, lorsque l'on tousse, toute la totalité des gouttelettes soit bien retenue par la visière. Donc oui, elle peut tout à fait être efficace si elle est bien portée.
Alors, le Covid a-t-il eu des répercussions sur les patients qui sont atteints de cancers rénaux ? Est-ce que cela a aggravé leur état, selon vous ? Est-ce qu'il y a eu des retards de traitement qui sont préjudiciables à vos patients, professeur ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les cancers du rein sont, dans les pays industrialisés comme les nôtres, et notamment dans mon service, découverts, fortuitement pour la très grande majorité d'entre eux, à l'occasion d'un examen d'imagerie, qui peut être une échographie, un scanner ou une IRM, et on considère que 70 à 80% des cancers du rein sont découverts de cette manière. Donc il est évident que la pandémie de Covid n'a pas permis aux patients d'aller faire leurs examens d'écho, de scanner ou d'IRM, encore une fois, fait pour autre chose. Fait parce qu'on a une fatigue, parce qu'on a un bilan biologique perturbé, parce qu'on a des douleurs par-ci, par-là, bref, pour des symptômes qui ne sont pas liés au cancer du rein, parce que c'est un cancer qui est asymptomatique ou peu symptomatique dans la grande majorité des cas, et qu'on le découvre à l'occasion d'une imagerie. Donc on sait très bien qu'un très grand nombre d'imageries n'ont pas été faites, donc un très grand nombre de diagnostics fortuits n'ont pas été faits pour ces patients-là. Est-ce que ça a aggravé leur état ? C'est encore trop difficile pour le dire. Chaque cancer étant individuellement différent, il est encore impossible de savoir la répercussion. En revanche, il va y avoir un retard de prise en charge de ces patients, ça c'est certain, et ce retard ne va pas se combler dans les jours ou semaines qui viennent. Tout le monde ne va pas se précipiter pour aller voir leur médecin, parce qu'encore une fois, Les patients vont faire leur bilan, vont faire leurs examens, vont retourner voir leur médecin, mais s'ils n'ont pas de signes, ils ont plutôt tendance à dire qu'on va attendre, on va voir, on ferait ça après les fêtes, après les vacances. Ils vont plutôt profiter du soleil, profiter à nouveau des possibilités que le gouvernement nous a offert de sortir, de partir en week-end, plutôt que d'aller voir leur médecin, et encore une fois, on peut tout à fait les comprendre. Donc moi, ma crainte, c'est que la deuxième crise dont on parle beaucoup actuellement, et qui est la fameuse deuxième vague, dont on n'a aucune certitude aujourd'hui, ni sur l'intensité, ni sur même l'existence, ni sur le délai, je crains que cette deuxième vague, en fait, soit une vague médicale, avec un nombre de diagnostics très importants de cancers du rein qui vont probablement être découverts, on va dire, plutôt en fin d'année, ou même peut-être plutôt en premier trimestre 2021, et on va avoir, à n'en pas douter, un très grand nombre de patients à ce moment-là qu'il faudra prendre en charge et qu'il faudra traiter. Est-ce que ça aura une répercussion? Est-ce que les tumeurs auraient été plus petites? C'est franchement impossible à dire. Le cancer du rein est un cancer à évolution lente, donc ça ne fait pas partie des cancers qui ont une évolution fulgurante, c'est-à-dire qui grossissent à vue d'œil, comme certains cancers. Donc probablement, ça aura moins de répercussions que certains cancers, mais de façon générale, la population des patients qui ont des cancers vont être affectés par cette épidémie. Et ce que je peux vous donner comme chiffre, qui est un chiffre, encore une fois, difficilement transposable d'un cancer à l'autre, mais qui a quand même une certaine forme d'utilité, c'est le chiffre qui vient de paraître au moment du congrès de l'ASCO, qui est le grand congrès américain qui vient d'avoir lieu en virtuel, hein, il n'a pas eu lieu en présentiel, pour toujours les mêmes raisons. Et le chiffre qui est avancé, c'est qu'il y aurait une augmentation de 13% de la mortalité par cancer du fait de l'épidémie. Chiffre à vérifier, mais qui donne quand même un certain aperçu, on va dire, de la répercussion et des soucis qu'a pu créer, évidemment, l'épidémie.
Professeur Méjean, j'aimerais qu'on parle un peu de la recherche que vous avez menée de 2009 à 2017, l'étude Carmena, qui démontre alors que le sunitinib, qui appartient à la catégorie des thérapies ciblées, est aussi efficace que la chirurgie dans le traitement du cancer du rein avancé, c'est-à-dire avec métastase. Cela constitue-t-il une avancée significative pour les malades? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, professeur?
Alors, jusqu'en 2018, pour les patients qui avaient, alors cette fois-ci, un cancer beaucoup plus avancé que les cancers strictement localisés qu'on opère d'habitude, là, il s'agissait de patients qui avaient un cancer métastatique. C'est-à-dire, au moment où on leur faisait le diagnostic, ils avaient non seulement la tumeur primaire, mais parce que le cancer avait diffusé, il y avait l'existence de métastases dans différents organes, le poumon, les ganglions, le foie, etc. Il se trouve que jusqu'en 2018, l'attitude thérapeutique pour ces patients-là était d'opérer le rein, de retirer le rein malade, atteint, et de traiter par le sunitinib la maladie générale. Il se trouve que il y a maintenant 10 ans de cela, on a développé une étude clinique, une étude sur tout le territoire national et un peu à l'international, où on a essayé de se poser la question très simple, de savoir si, avec l'avènement de ces nouvelles molécules, dont le sunitinib et dont d'autres qui sont depuis arrivés, ce qu'on appelle les immunothérapies et d'autres anti-angiogéniques, comme ce sont des traitements qui sont quand même plus efficaces que les traitements que l'on avait à l'époque, on s'est posé la question de savoir s'il était toujours licite de retirer le rein. On a donc fait une étude qui s'appelle l'étude Carmena, qui a comparé deux bras, les patients qui étaient opérés et qui étaient traités, et les patients qui étaient seulement traités et qui n'étaient pas opérés. Et on s'est aperçu, au terme de cette étude, que les patients qui étaient simplement traités par le sunitinib n'avaient pas une survie globale moins bonne que les patients qui étaient traités par chirurgie et par le même traitement. Cette première étude, qui est donc a été justement présentée au Congrès américain est publié, a donné lieu à une deuxième étude qui va être publiée très prochainement et qui a permis, dans cette population quand même, de trouver un sous-groupe de patients pour lequel, même en situation métastatique, on pouvait quand même leur proposer une chirurgie. Et en l'occurrence, les patients qui avaient peu de facteurs de risque et qui n'avaient qu'un seul site métastatique au moment du diagnostic. Donc en conclusion, si vous voulez, en 2018, on a changé le paradigme, puisque c'est le terme actuellement consacré, on a changé le paradigme du traitement des cancers du rein métastatiques en ne proposant plus systématiquement l'opération, mais en proposant en première intention le traitement systémique sans opérer. Et si il y a une très bonne réponse sur les sites métastatiques, on peut faire ce qu'on appelle une néphrectomie secondaire, c'est-à-dire qu'on peut proposer une néphrectomie secondaire quand le traitement a été efficace. Donc oui, ça a changé, on va dire, considérablement la prise en charge des cancers du rein métastatiques en évitant aux patients une intervention inutile.
Valérie, une dernière question peut-être à poser au professeur Méjean.
Oui, professeur, concernant les personnes fragilisées, vos patients qui actuellement sont peut-être certaines immunodéprimées, dans le cadre de ce déconfinement, quelles sont vos consignes, conseils ?
Moi, je pense que si vous voulez, comme il est dit actuellement, il est très difficile de faire la part des choses sur ce qu'on appelle l'immunogénétique de ce cancer et la diffusion de ce virus et la diffusion du virus lui-même. C'est très difficile parce qu'on voit bien que beaucoup de modélisations étaient fausses, que beaucoup d'experts, virologues, épidémiologistes se sont prononcés de façon, on va dire, pas farfelu, mais sans vraie connaissance scientifique, et c'est pas de leur faute, c'était juste qu'on ne peut pas connaître par avance un virus qui jusqu'à présent était inconnu. Donc mes recommandations sont de dire qu'actuellement, il vaut mieux être surprudent que ne pas l'être suffisamment, surtout chez les patients immunodéprimés, les patients cancéreux, qui par définition sont immunodéprimés soit par l'existence du cancer, soit par l'existence du cancer et le traitement qui peut aussi les immunodéprimer. Donc je pense qu'il faut que pour ces patients et leur entourage, il faut vraiment respecter de façon scrupuleuse les règles que l'on a indiquées, c'est-à-dire le port du masque, pas d'embrassade, pas de serrage de main, avoir toujours avec soi une petite fiole dans laquelle il y a des solutions hydroalcooliques. Ça, je pense que c'est très important parce que la diffusion par les mains reste importante. Dès qu'on touche quelque chose, on peut contracter le virus. Et je pense que tant qu'on n'est pas en phase vraiment où on a l'assurance que le virus a diminué, eh bien, je pense qu'il faut faire attention. Et il faut, je vous dis, porter ce masque, le changer toutes les 4 heures, soit en mettant un nouveau, soit en lavant et en mettant un propre. À chaque fois qu'on touche quelque chose, qu'on ouvre une porte, qu'on fait un code de carte bleue, juste après, avoir la petite fiole, mettre une petite dose dans la main de solution hydroalcoolique pour bien se laver les mains, et avoir cette hygiène de vie qui est fondamentale pour soi, pour les autres, et également faire respecter ces règles-là par son entourage, ses amis. Il n'est pas question que les patients qui ont des cancers ne sortent pas, ça n'a pas de sens. Il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils puissent profiter de tout ce qu'on peut profiter, mais il faut qu'ils soient encore plus précautionneux que les autres, et il faut que leur entourage ait toujours à l'idée d'être plus précautionneux avec eux qu'avec des personnes qui ne sont pas atteintes.
Professeur Arnaud Méjean, merci infiniment pour ces précieux conseils et surtout d'avoir dégagé un petit peu de temps pour participer à cette interview. Vous êtes chef de service en urologie et en chirurgie rénale au centre Georges Pompidou à Paris. Merci professeur et à bientôt.
Je vous en prie.
Patients ensemble, l'interview.